Hello à tous et à toutes. Bienvenue sur Culture & Com, la boîte à outils à destination des professionnels de la culture. En août 2022, l'ICOM a adopté une nouvelle définition des musées. La voici. Un musée est une institution permanente à but non lucratif et au service de la société qui se consacre à la recherche, la collecte, la conservation, l'interprétation et l'exposition du patrimoine matériel et immatériel. Ouvert au public, accessible et inclusif, il encourage la diversité et la durabilité. Les musées opèrent et communiquent de manière éthique et professionnelle avec la participation de diverses communautés. Ils offrent à leur public des expériences variées d'éducation, de divertissement, de réflexion et de partage de connaissances. Cette nouvelle définition repositionne les publics au centre de toutes les attentions. On parle alors d'expérience et non plus d'expertise. Le musée est davantage envisagé comme un lieu de vie, d'échange et de partage, devant par conséquent rester attentif et en phase avec les besoins et attentes de la société et des publics. Dans ce nouvel épisode, nous allons nous pencher sur la notion d'expérience qui est, comme vous allez le constater, liée au principe d'accessibilité et d'inclusion. Pour ce faire, je vais vous parler de la chaîne d'expérience de visite, vous expliquer en quoi elle consiste et quelles actions peut-on mettre en place pour l'optimiser. Mais avant cela, étudions le contexte où a vu émerger cet intérêt autour de l'expérience des visiteurs des musées. Ici, nous parlerons principalement donc des musées, mais cela peut être transposé dans d'autres lieux culturels qui accueillent du public. Dans les années 60, les musées étaient principalement visités par la même classe sociale, plutôt aisée et issue de la bourgeoisie. Il y avait peu de volonté d'expliquer le contexte des œuvres car on partait du postulat que ceux et celles qui venaient avaient suffisamment de connaissances pour les déchiffrer. Si ce n'était pas le cas, c'est qu'ils et elles manquaient de culture et de savoir. Cela mettait donc de côté la majorité de la population qui n'avait pas accès aux mêmes enseignements. Les musées sont alors perçus comme des espaces élitistes et fermés, entraînant par la suite une crise des musées. Il va donc être urgent à cette période de renouveler les pratiques et de développer une nouvelle façon d'exposer. Dans les années 70-80, Georges-Henri Rivière, muséologue, joue alors un rôle important dans ce renouvellement et théorise ce qu'on appelle aujourd'hui la nouvelle muséologie. La nouvelle muséologie se développe dans l'esprit d'une démocratisation culturelle centrée sur les publics. Dans l'ouvrage « Muséologie » d'André Gobbe et Noémie Droguet, les auteurs situent ce mouvement à l'intersection de différentes disciplines des sciences humaines. La sociologie, en questionnant la place du musée dans la société et en analysant ses publics, ce qu'on ne faisait pas avant. La pédagogie, par son souci de la mission didactique du musée. Elle participe aussi pleinement aux sciences de la communication en contribuant à l'étude de l'exposition en tant que média spécifique. Et l'histoire qui lui est intimement liée par la dimension patrimoniale du musée. On passe alors du muséologie de l'objet où les objets exposés sont au centre de l'attention et où on ne prend pas en compte la rencontre entre les publics et l'objet d'art, à une muséologie dite participative où ce sont les visiteurs qui sont au centre de notre intérêt. La scénographie, la muséographie et l'ensemble des propos sont alors adaptés à ces derniers. Il y a une désacralisation de l'objet exposé au profit de la découverte, de la vulgarisation, de l'immersion, du sensoriel et de l'expérience. C'est en ayant cette démarche autour des visiteurs, avec une volonté de les comprendre et de comprendre leurs pratiques culturelles, que l'on s'est penché sur tout le processus de visite, avec l'avant et l'après-visite, qui semblent être des étapes importantes et déterminantes dans le processus général de la rencontre avec l'œuvre et les musées. Ajoutez à cela l'émergence des nouvelles technologies, qui va permettre une nouvelle manière d'imaginer et de concevoir des outils de médiation et de communication. Prendre en considération toutes les étapes du processus de visite permet au musée de remplir leur rôle d'acteur social. Par exemple, si des outils de médiation adaptés sont déployés au sein des espaces, si la signalétique permet une circulation fluide et optimisée, ou bien encore si des espaces de repos sont présents, l'accès aux objets et au patrimoine s'en voit facilité. Car les parasites externes au processus de rencontre ne viendront plus perturber les visiteurs. Pour information, la chaîne d'expérience de visite est liée à la chaîne d'accessibilité qui est destinée à optimiser l'accès aux lieux culturels pour les personnes en situation de handicap. C'est basé sur le même principe, anticiper les obstacles que les publics peuvent rencontrer dans leur accès à l'art et au patrimoine pour pouvoir les réduire, voire les supprimer. Maintenant, penchons-nous concrètement sur les différentes étapes de la chaîne d'expérience de visite composée de trois phases, l'avant-visite, le pendant-visite et l'après-visite. L'avant-visite, c'est le moment où une personne décide de se rendre dans un lieu culturel. Cette décision peut être motivée par plusieurs facteurs, le bouche à oreille, les réseaux sociaux, la presse, les magazines, les émissions de podcast, la radio, etc. Donc, cette personne n'est pas encore un visiteur ou une visiteuse. Elle est seulement dans la phase préparation à la visite. Pour cela, elle va consulter le site internet d'un lieu qu'elle souhaite visiter et va se renseigner sur l'offre culturelle en fonction de son profil et de ses envies. Y a-t-il des visites guidées? Y a-t-il des activités adaptées pour les enfants ou pour les familles? Quelles sont les expositions du moment, etc. Puis, cette personne, après avoir sélectionné plus ou moins l'activité qu'elle souhaite faire, elle va regarder peut-être les informations pratiques, l'adresse du lieu, les différents moyens de s'y rendre, les horaires d'ouverture et de fermeture, le prix d'entrée et les équipements sur place, s'il y a une buvette, des toilettes accessibles pour les bébés, des ascenseurs, des prêts de poussettes ou d'assises portables, ou encore s'il y a une boutique ou une librairie. Et enfin, si cette personne obtient toutes les informations nécessaires pour son déplacement et qu'elle décide de programmer sa venue, elle va réserver son billet d'entrée via un système de billetterie en ligne. Toutes ces démarches, effectuées par le futur visiteur, doivent être optimisées pour lui faciliter sa venue. En effet, le site internet doit être pensé de sorte que les informations arrivent facilement à l'utilisateur. La navigation doit être intuitive et fluide, sinon cela risque de créer de la frustration et un abandon de la volonté de venir. Toutes les informations pratiques et le détail de l'offre culturelle doivent être présentes et mises à jour le plus possible. Le prix d'entrée est aussi un facteur déterminant dans l'accès à la culture et peut présenter un obstacle si ce dernier est trop élevé. C'est pourquoi aujourd'hui on trouve de plus en plus des prix préférentiels pour les étudiants, les familles ou les seniors. Et n'oublions pas qu'en France, la majorité des musées de France sont gratuits pour les jeunes de moins de 26 ans. Si cette première étape est concluante, nous arrivons au jour J de visite. C'est dans cette deuxième phase que plusieurs champs d'expertise se croisent et s'imbriquent, chacun revêtant une certaine importance. Je fais référence ici à l'accueil, la signalétique, la scénographie des espaces d'exposition, les dispositifs et les outils de médiation, la diversité de l'offre culturelle et les équipements. Si on s'arrête sur la signalétique par exemple, celle-ci est très importante car elle permet une circulation fluide dans les différents espaces. Il n'y a pas d'agacement pour trouver les toilettes ou la librairie par exemple. Quant aux outils de médiation comme des livrets de visite, ces derniers peuvent proposer différents parcours en fonction des envies et du temps que les visiteurs souhaitent y consacrer ou encore si c'est une famille. Quand j'ai visité le château des Ducs de Bretagne à Nantes, on m'a donné à l'accueil un livret qui proposait plusieurs manières de déambuler dans les espaces. Ils avaient estimé qu'une visite complète se faisait en 3 heures environ. Déjà, je trouve cela super qu'on sache dès le départ combien de temps il faut pour visiter l'ensemble du lieu. Cela nous donne un ordre d'échelle et on peut s'organiser en conséquence. Puis, sur ce même livret, on retrouve une sélection de salles et d'objets à voir absolument si on souhaite faire la découverte qu'en 1h30. Cette proposition alternative est super bien pensée car les visiteurs ne vont pas se sentir frustrés de ne pas avoir tenu 3 heures car ils sauront qu'ils ont vu le principal. Également, la mise à disposition d'audioguides et de livrets pédagogiques pour les enfants, la présence de tables sensorielles pour les personnes en situation de handicap ou la qualité des cartels en termes de police et de contenu sont des éléments importants qui vont contribuer à l'accessibilité des contenus et par extension rendre favorable l'expérience de visite. Puis arrive la dernière étape, celle de l'après-visite. On pourrait penser que les lieux culturels ont rempli leur mission en accueillant les publics au sein de leurs espaces. Pourtant, il est très important de ne pas abandonner les visiteurs après qu'ils aient franchi la porte. Au contraire, il faut développer d'autres solutions pour continuer à créer du lien avec ces derniers afin de les faire revenir. On pourrait parler crûment de stratégie de fidélisation, même si dans le cas des lieux culturels, il n'y a pas vraiment d'objectif de rentabilité financière et que l'on ne considère pas les visiteurs comme des acheteurs et des consommateurs. Ce sont les outils de la communication qui vont prendre le relais pour continuer à informer et correspondre avec les publics. Cela peut être via une newsletter, une chaîne de podcast, le catalogue de l'exposition ou les réseaux sociaux. Un simple mail demandant de commenter leur visite permet d'une part de récolter leur avis à chaud en vue de s'améliorer et d'autre part montre que l'établissement est attentif à leur venue et qu'il leur porte de l'intérêt. Terminons cet épisode avec quelques exemples d'initiatives que vous pouvez mettre en place au sein de vos établissements pour améliorer la chaîne d'expérience de visite. Premier cas, votre institution fait des travaux de grande ampleur pour rénover et renouveler ses espaces d'exposition et de déambulation. C'est le parfait moment pour développer une stratégie de co-construction avec les visiteurs cibles. Par exemple, le Musée de l'Homme, en 2015, il me semble, a organisé des focus group avec des personnes en situation de handicap pour imaginer les futurs espaces et les offres culturelles pour qu'ils puissent être accessibles à ces derniers. En effet, la politique de ce musée était d'améliorer de manière significative l'accessibilité du lieu. Donc, premier conseil, intégrer les publics dans vos réflexions de développement via des études et des questionnaires ou l'organisation, comme avec le Musée de l'Homme, de focus group. Deuxième cas, vous souhaitez améliorer l'expérience de visite de vos publics quand ils sont déjà sur place. Misez sur la participation. Les visiteurs doivent devenir des acteurs de leur expérience. Pour cela, le déploiement d'outils de médiation ludique, sensorielle ou numérique semble être une première bonne solution. Sinon, durant les visites guidées, engagez le visiteur en l'interpellant, en lui posant des questions, en le faisant manipuler des objets. On peut aussi imaginer de proposer d'autres formats de visites, comme les visites comptées, adaptées à chaque âge, du plus petit au plus grand. Donc, deuxième conseil, rendre le visiteur acteur avec des outils de médiation adaptés. Troisième cas, vous peinez à faire revenir vos publics et vous ne savez pas pourquoi. Tout d'abord, questionnez-les via un mail de remerciement accompagné d'un court questionnaire que vous pouvez leur envoyer via l'adresse qu'ils ont renseignée pour acheter leur billet. Le but n'est pas d'être intrusif, mais de leur montrer que vous êtes à leur écoute. De plus, vous pouvez développer votre présence en ligne sur les réseaux sociaux, par exemple. Montrer que vous êtes accessible et proche de vos visiteurs. Donc, troisième et dernier conseil, développez vos canaux de communication pour transformer vos visiteurs en ambassadeurs de votre établissement. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous sera utile dans votre quotidien professionnel. En description de cet épisode, vous trouverez la liste de tous les ouvrages et articles qui ont aidé à construire mon propos. Si vous souhaitez réagir, vous pouvez m'écrire par mail ou en message privé sur le compte Instagram du podcast @culture.com. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.